France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Quand l'art contemporain rencontre les maîtres du 18e, c'est l'exposition correspondance au musée Cognac-G à Paris. L'artiste Agnès Turnauer est l'invité des midis aujourd'hui. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critiques. Aujourd'hui, deux expositions, John Singer Sargent, Éblouir Paris au musée d'Orsay et Luc Delahaye, Le bruit du monde au musée du jeu de paume à Paris. Donc, vous écoutez les midis de culture et je vous envie un peu. Et pour évoquer ces expositions, deux regards, Corinne Rondeau, maître de conférence en esthétique et sciences de l'art à l'université de Nîmes et critique d'art, bonjour.
Bonjour Marie.
Sally Bonne, maître de conférence en esthétique à l'université Picardie-Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux.
C'était, paraît-il, le bon temps. Quelques-uns s'en souviennent encore. À Paris, au début du siècle, aux environs de 1900. Dès l'aube, un jardin potager s'ouvre sur de vieilles rues où parfois se glissent quelques malfaiteurs. Dans les vieilles rues du temple, ou bien le long des quais, la scène commence seulement à s'animer. Les péniches ont cédé le haut du fleuve au premier bateau-mouche parti du pont du Louvre et qui s'en va jusqu'à Suresnes. Presque déserts encore, les beaux quartiers voient monter la lumière fameuse qui dort la pointe de l'obélisque, et non loin ce monument, chef-d'œuvre, disent les uns, abomination, crient les autres, la tour de Monsieur Eiffel.
Le Paris de la Belle Époque, c'est un Américain de retour à Paris. C'est la première rétrospective consacrée au peintre John Singer Sargent en France. Et c'est pourtant en France et donc à Paris que le jeune artiste qu'il était s'est épanoui. Il arrive dans la capitale en 1874 à l'âge de 18 ans, au cœur donc de cette Belle Époque. Et pendant 10 ans, il y prend des cours, il côtoie la scène artistique et la haute bourgeoisie. Très vite, son talent fait mouche. Ses portraits emballent le tout Paris. 90 toiles de cette époque sont rassemblées au musée d'Orsay, dont certaines sont considérées comme de véritables chefs-d'œuvre aux États-Unis, alors que l'artiste est retombé dans un quasi-anonymat en France. On commence avec un avis rapide, Corinne Rondeau.
Oui, alors c'est un peintre virtuose. On a l'impression d'entendre des notes à la Chopin chaque fois qu'on regarde un tableau. C'est une exposition donc qui couvre une dizaine d'années. Malheureusement, j'ai trouvé que c'était dommage d'avoir un peu à empêcher de voir l'étendue, parce que c'est vraiment une œuvre totale sur les questions de portraits et au-delà des portraits qui sont absolument magnifiques. Au-delà de ça, bien sûr, je trouve qu'il est un peu parfois trop maniéré, mais c'est pas un souci.
On va y revenir, Sally Bonne, rapidement.
Un peu maniéré peut-être, mais c'est surtout un immense portraitiste. Et toute l'exposition que j'ai trouvée assez éblouissante à la fois par sa manière, mais aussi par son usage de la lumière, de la manière dont il fait apparaître la lumière. Et c'est un très grand peintre du blanc qu'on voit, qui traverse, en fait, la présence du blanc traverse l'ensemble de son œuvre de manière absolument prodigieuse.
Alors, est-ce qu'on peut, Corinne Rondeau, définir un petit peu ce qu'on voit, son trait, son coup de pinceau?
Ah ben, ce qu'on voit, c'est à peu près ce que dit Sally, dans la mesure où, en fait, il réussit son coup, on va dire, à être le grand peintre portraitiste, puisqu'en fait, c'est là, depuis les années 1860, la question du portrait en pied, avec celui qui sera son maître, Carolus Duran, mais vous en avez aussi avec Bonnin, vous en avez avec Claude Monet, donc c'est c'est un genre de portrait qui apparaît juste avant son arrivée à lui, donc il est formé par Carolus Duran. Donc vous avez des portraits, non, pas que des portraits en pied, mais beaucoup de portraits, et c'est surtout des portraits dans des environnements de la haute société bourgeoise parisienne. Donc évidemment, ça a un attrait éblouissant, parce que c'est aussi la mode, c'est-à-dire que cette classe sociale s'habille d'une certaine manière, se maquille d'une certaine manière, et on a à l'intérieur de cet environnement quelqu'un qui va faire éblouir encore plus ses qualités, je dirais, de leur propre représentation, puisque c'est l'époque aussi du développement du portrait photographique, en même temps qu'on a les développements de l'impressionnisme avec les activités quotidiennes. Alors, une activité quotidienne pour quelqu'un de la haute, c'est je suis dans mon fauteuil, ce soir je sors, je me maquille bien de couleurs particulières, c'est pas que du blanc, enfin on est, et c'est vraiment, c'est comme un petit peu une manière de faire publicité, c'est-à-dire je me fais faire le portrait et on les voit dans la société, parce que là pour nous ils sont enterrés et ça fait un siècle qu'ils sont loin de nous, un peu plus d'un siècle qu'ils sont loin de nous, mais là il faut dire que le portrait joue avec la présence dans cette société, donc il y a cet élément là et j'abonde dans le sens du blanc parce que il y a quelque chose qu'on voit très très vite dans sa peinture et que le catalogue confirme, c'est qu'il est maniéré au niveau des pratiques des mains, la manière dont il peint les mains à la Van Dyck, peintre flamand qui fait sa grande carrière en Angleterre, notamment avec Charles Ier qui lui donne une latitude de représentation. De portraits notamment. Donc il a Van Dyck, d'ailleurs il va faire une partie de son trajet comme Van Dyck à Venise, et il a aussi un goût pour Velázquez, c'est-à-dire une manière de, il y a la peinture qui les fonds ressortent, il y a aussi cette manière de travailler à la fois l'aspect obscur, sombre, et le blanc, et ça c'est Manet, parce qu'il est aussi fasciné par Manet, et il a un coup de touche qui ressemble, qui m'a fait penser, moi, au pivoine de Manet. Une touche lourde, et en même temps, on voit qu'il a une rapidité. Donc, il y a cette espèce de vibration de la peinture, et puis il a un culot phénoménal. Quoi. Le docteur Pozzi, par exemple, rouge sur rouge, on se dit, mais quel est ce personnage? Je croyais que c'était un chanteur d'opéra, moi, donc non, c'était un chirurgien gynécologique. Ok, d'accord. Et donc, c'est des choses qui sont assez hypnotisantes, mais j'ai l'impression qu'il arrive à la fin de tous ses portraits, en pied, et à la fois, il est à l'apothéose de ce genre, et c'est ce qui fait de lui un virtuose. Les virtuoses, quand ils arrivent à l'apothéose, et donc, il aura fait un tableau trop. Et ouais. C'est pour ça qu'il va partir et voilà, que l'exposition s'arrête en 1884.
On peut raconter peut-être cette histoire, Sally Bonne, ce tableau de trop qui est quand même assez saisissant, cette femme de profil avec cette bretelle qui a été remise
alors,
en place.
C'est le portrait d'une grande mondaine qui s'appelle Virginie Gautreau, qui est en fait une Américaine qui s'est mariée à un riche banquier, je crois, ou industriel français, extrêmement connue dans la grande société, parce qu'effectivement, comme Corinne Rondeau l'a dit, on montre à la fois la grande bourgeoisie, la vieille aristocratie dans sa un peu sa décadence, et puis aussi l'élite intellectuelle qui mélange à la fois justement une vieille aristocratie française avec les nouveaux arrivants qui sont les Américains, et donc il y a aussi cet effet entre une espèce de tradition et puis le nouveau monde, et avec sa flamboyance et son argent. Donc Virginie Gautreau, elle est représentée, donc elle est très connue, elle est très présente, et elle est représentée par Sargent, de profil, avec un profil extrêmement précis et très nettement dessiné. Elle est dans une robe qui a l'air d'une robe fourreau, mais en fait, parce que la robe de l'époque, tout le tissu se trouve derrière. D'ailleurs, il faudra, j'espère qu'on pourra en parler, mais le traitement des tissus par Sargent est assez extraordinaire. Il arrive à rendre à la fois le velours, le satin, la soie, la dentelle, le tulle, tout ça, il a une capacité à rendre la texture des tissus assez, assez étonnante. Et donc, Virginie Gautreau, Madame X, il la représente avec une robe qui a un décolleté plongeant, et très plongeant, voilà. Et avec une bretelle qui, à l'époque, pas sur le tableau tel qu'on le voit au musée aujourd'hui, mais à l'époque, tombait sur l'épaule, et ça a fait absolument scandale. Ce qui est assez étonnant et singulier dans ce tableau, et ça me permet de reparler d'ailleurs du blanc, c'est qu'il l'a peinte sur un fond un peu neutre, Son visage est extrêmement dessiné, ses lèvres très soulignées en rouge, ses sourcils très marqués parce qu'elle est maquillée. Et elle est maquillée, c'est-à-dire qu'elle est maquillée de blanc, en fait, avec des cheveux qui sont manifestement teints, un peu auburn. Et en fait, elle doit avoir une poudre blanche qui lui recouvre le visage et le haut du corps, et donc le décolleté, qui a une espèce de teinte presque cadavérique.
Qui vient contraster
avec le noir, et qui est vraiment très singulier. Donc ça fait une figure qui est très troublante parce qu'on est à la fois dans l'espèce de séduction de tous les portraits de femmes qui sont absolument magnifiques qu'il a peint avant, et là c'est une espèce de figure qui dépasse un peu à la fois le bon mode de représentation, la vertu et l'élégance, et qui est presque aussi dans une espèce de cette dimension cadavérique est assez un peu inquiétante. Et c'est vrai que dans toutes les œuvres de Sargent, il y a une espèce d'étrangeté qui est peut-être liée aussi à cette touche qu'il a, qui est à la fois fluide et esquissée, mais en même temps aussi d'une très grande précision. Dans certains portraits, on a des visages et des mains qui sont hyper précis, et tout d'un coup le flou de la robe qui vient contraster et qui fabrique comme ça une espèce d'étrangeté, et qui propose quelque chose qui est de l'ordre d'une très grande sensualité, qui est pas évidente, parce qu'en fait il y a une forme d'académisme des premiers tableaux et des premiers portraits, mais qui en fait se révèle d'une très grande sensualité, notamment dans des portraits masculins. Alors, incroyables.
Corinne Rondeau.
Oui, il y a des portraits masculins au tout début, quand il arrive à Paris. C'est vraiment des garçons, notamment un dont il a une sorte de vêtement, mais il a une épaule découverte.
Là aussi.
Et là, on a un autre portrait du même garçon, petite moustache, comme on les a dans la rue aujourd'hui, mais vraiment, on dirait un portrait contemporain, avec un blanc brillant sur la lèvre inférieure. Se dégage un érotisme absolument incroyable de ces tableaux. Il a vraiment pour moi une touche vraiment vénitienne quand il fait ça. Et sur le côté cadavérique de Madame X, c'est parce qu'il y avait de la lavande. En fait, ça teignait le corps entièrement. D'ailleurs, dans une déclaration, il dit « Est-ce que ça va gêner ? Parce que je dois la peindre un peu en chlorate de potassium. » Et donc, on se dit « Oui, et c'est ça qui est intéressant de ce que relevait Sally sur ce côté cadavérique. » Et puis, le contrepoint d'autres représentations, c'est qu'il arrive à donner une ressemblance à point de ces corps. Et on voit d'ailleurs, une des spécificités, je crois, de sa peinture, c'est la capacité à donner des modèles décontractés. La manière dont je me pose, par exemple, dans le fauteuil, la veste, la chemise de soie de Peyron, il a la main vraiment très élégamment, les ongles peints, etc., sur la hanche, et en même temps, la chemise de soie est un peu débraillée avec un flou, par exemple. Donc, il a cette manière de travailler, effectivement, je rejoins ce que dit Sally, une certaine dimension nette, et en même temps, le toucher, quelque chose qui vient rendre sensuelles les surfaces, donc les tissus, évidemment. Donc oui, il y a une grande sensualité chez lui, même si je trouve que c'est le dernier des maniéristes, en fait. C'est le style stylé. Et ce style, il le prend de son époque et il met en apothéose absolument cette dimension de la vie stylée dans la peinture elle-même stylée. Donc je trouve que c'est vraiment... le titre est bien choisi, c'est pas qu'éblouir Paris, c'est nous éblouir. Moi, ce qui m'a surpris, je sais pas, Sally, quand vous y êtes allée, mais il y avait un monde de fous. Alors à Boston, ça fait 1,5 million d'entrées, mais il est connu, c'est un peu Monet là-bas. Faut lui rendre quand même grâce, puisqu'il a été avec Monet, les deux acteurs de la souscription pour que l'Olympia de Manet ne parte pas à l'étranger, donc c'est pour ça qu'on l'a dans les collections françaises aujourd'hui. Et par ailleurs, je n'ai pas compris qu'il y ait eu autant de monde, parce que ces portraits, on les connaît pas, parce que cette société, on ne la connaît plus, et puis parce que, comme vous l'avez dit, Marie, Sargent est un peu tombé dans l'oubli pour beaucoup de gens, quoi. Et je me demandais si c'était ce rapport maniéré qui est, je me montre, parce qu'à l'époque, par exemple, il y a un portrait où il y a une Il y a un diadème en demi-lune qui est une manière de rappeler de la mythologie. Je joue à Diane. Ce soir, je sors, je suis Diane. Il y a une dimension de représentation mythologique de soi-même, ce qui caractérise une identité de soi dans la société qui mord le kitsch, quoi. Vraiment, ouais, ouais. Je me mets dans un rôle de... Et il est dans, voilà, et je pense qu'il est au bout de cette stylisation d'une époque. C'est pour ça qu'il arrive à la magnifier. Mais c'est ce qui m'a manqué dans l'exposition, indépendamment du monde, qui lui ne m'a pas manqué pour l'exposition. C'est les dernières parties, des choses qu'il refait dans la nature, parce que il a un côté impressionniste. D'ailleurs, il y a un tableau sublimissime de Sous la tonnelle,
ah oui,
des trouées de lumière, oui, avec au premier plan un plateau d'argent avec deux verres, le culot est blanc, encore une fois, ça lie le blanc, c'est verre de vin. Écoutez, c'est une apothéose encore, mais là, de peinture. Donc, et quand il part aux États-Unis, Angleterre, États-Unis, il ramène des tableaux avec un travail de la lumière pour boucler la boucle du début de Sally sur quel peintre de lumière.
On s'arrête là sur John Singer Sargent pour passer à la suite. Allez, Éblouir Paris, c'est jusqu'au 11 janvier au musée d'Orsay. Commissaire d'exposition Caroline Corbeau-Parson, pardon. Le catalogue d'ailleurs, sous sa direction, est aux éditions Musée d'Orsay Gallimard.
Le principal de mon temps est occupé à marcher, me balader, prendre le thé avec des gens, faire des connaissances. Dans toute cette première phase du travail, je m'attache à me mettre dans un état de disponibilité maximum. Et je m'attache à ne rien faire. Pour être aussi sensible que possible à un événement, un micro-événement qui, dans une autre disposition d'esprit, n'aurait pas arrêté mon attention.
Et on enchaîne donc avec la rétrospective consacrée au photographe Luc Delahaye au Jeu de Paume. À Paris, elle s'intéresse aux 25 dernières années de travail de l'artiste, car jusqu'en 2000, Luc Delahaye a été photoreporteur pour la presse. Il a couvert la plupart des grands conflits mondiaux et puis son regard s'est déplacé. Il a choisi de s'éloigner de la brutalité de l'instant, d'y mettre plus de subjectivité tout en gardant au fond un ancrage dans le réel. Ses photos sont désormais de très grands formats, souvent panoramiques, parfois même retravaillées totalement à l'ordinateur. On commence par quelques mots, Sally Bonne.
Alors, c'est une exposition assez incroyable, en fait, d'une grande intensité, avec des images qui sont étonnamment, notamment parce qu'elles traitent, calmes et silencieuses, pour faire entendre ce bruit du monde dont je trouve que le titre est extrêmement bien choisi.
Oui, Luc Delahaye, le bruit du monde, Corinne Rondeau, en quelques mots.
Oui, c'est aussi, j'ai l'impression, puisqu'il couvre la totalité de l'espace du Jeu de Paume, il y a deux temps. Il y a le temps du corps qui contemple ces photos dites panoramiques. Et puis au-dessus, où on travaille beaucoup plus la fragmentation, la recherche, qui est beaucoup plus présente. Et j'avais l'impression que j'avais la tête et le corps de Luc Delahaye. C'est-à-dire, en haut, c'est la tête, et en bas, c'est le corps. Donc il faut parcourir en bas. Et en haut, il faut peut-être se mettre à penser davantage ces rapports que je viens d'avoir au rez-de-chaussée.
Sally Bonne, c'est vrai que c'est étonnant ce calme et ce silence. C'est un peu comme si on arrivait après un événement très très violent qui persiste dans ces images.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, de la persistance. Il faut le dire, ce sont des photographies donc très grand format, à taille presque humaine, parfois panoramique, comme l'a dit Corinne Rondeau, qui sont des photos faites dans des contextes, le contexte de faits d'actualité, et qui en proposent une représentation, donc qui sont aussi indexés à l'événement, en l'occurrence, Irak, Ukraine, Syrie, Haïti, Libye, Rwanda, Bosnie, Palestine, et j'en passe. Enfin, voilà, on est face au désordre du monde, au conflit, à la guerre, et à l'actualité peut nous donner de pire. Et effectivement, on se retrouve... Il y a quelque chose qui s'éteint, mais qui se repose, repose.
Oui.
Donc c'est vraiment ce calme et ce silence qui, dans les premières salles, donc en bas, sont effectivement très prégnantes. Parce que ce calme et ce silence qui fait justement précisément entendre ce bruit du monde, parce que les images ont une espèce d'épaisseur qui renvoie de notre monde un effet d'écho. Et cet effet d'écho, il est redoublé par une espèce d'étrange distance que produisent les images dans leur ressort dramatique. Et cette distance, elle est absolument primordiale, et on la retrouve en bas comme en haut, c'est-à-dire dans l'ensemble des photographies qui sont produites, des images qui sont produites plus que des photographies d'ailleurs, on y reviendra peut-être, ouais. Qui est la distance... Et il le dit lui-même, Luc Delahaye, la distance minimum du reporter, la distance maximum qui éloigne, en fait, des figures qui sont représentées, et ce qu'il appelle la distance mentale du photographe. Et là, on s'interroge, en fait, nous-mêmes en tant que spectateurs, mais on interroge aussi le regard du photographe lui-même, c'est où il se trouve dans ces images, et quelle est notre place. Et dans le catalogue, il y a un entretien avec Michael Fried, pas pour rien, parce que Michael Fried a écrit un livre qui s'appelle La place du spectateur, qui interroge justement l'endroit où on se place en tant que spectateur, pour regarder ces images. Et c'est vrai que les images qui représentent à la fois avec une très grande distance ou une très grande proximité la guerre, le conflit, la mort, puisqu'il y a quand même une des premières photos, c'est quand même un taliban mort qu'on voit quand même de très près, ou bien un bombardement qui est très éloigné, donc on a l'impression d'une photographie de paysage et on voit quand même la fumée de ce qui est un bombardement au loin. Donc ce rapport-là de distance qui reprend cette idée de distance convenable dont parlait Benjamin et qui rend justement cette position, parce qu'il me semble que tout le travail de Luc Delahaye se pose sur la question de la position. C'est la position face au monde, à la fois au sens spatial, au sens stratégique, voire guerrier, en regard du réel et de l'image. Et sa position, c'est, il le dit, être là, frontalement.
Oui. Corinne Rondeau, c'est vrai que c'est intéressant ce que disait Sally. Elle dit des images, attention, pas des photographies.
Oui, ce sont des. D'ailleurs, il le dit, c'est pas des photos, ce sont des images. Et je pense que c'est une grande exposition sur la nature de l'image aujourd'hui dans un monde qui est le monde de la brutalité. Nous n'avons pas cessé depuis des décennies de vivre dans la brutalité du monde. D'ailleurs, j'en suis venue à me dire, mais finalement, nous sommes les héritiers de la brutalité du monde. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait tant de brutalité dans les images. Or, effectivement, il y a une interrogation du spectateur, très fortement, même silencieusement, il vient faire son trou. Ces images, font leur trou dans votre présence face à elle, parce que comme il est frontal, parce qu'il prend sa position frontalement à ses sujets, même s'il travaille ensuite sur ordinateur, puisqu'il va travailler avec plusieurs vues à partir de 2004, et puis ensuite il va mettre en scène à partir de 2013. Donc il a une manière de composer des images, et pas de faire que de la photo, même si par ailleurs il va sur les terrains, il se tient frontalement face à ses sujets pour faire de la documentation. Et ensuite, il y a tout ce travail-là. Donc, il y a vraiment quelque chose de la distance, comme l'évoquait Sally, et c'est vrai même, ces images photos. Vous savez, le panoramique, c'est toujours une manière de se rappeler, le romantisme. On est tranquille avec du panorama. Mais ces photographies ne sont pas des photographies panoramiques. Elles ont un format panoramique. D'ailleurs, ça lui vient d'une utilisation du Linhof Technorama 612, qui lui permet d'avoir carrément une photographie avec un tirage panoramique. Mais c'est justement une question d'espace. Comment j'élargis le champ de l'image, mais par rapport à quoi ? Par rapport au champ du réel. Et ce n'est pas du tout le rapport du panorama, du paysage. Donc ce ne sont pas des paysages chez Luc Delahaye. Pas du tout. C'est comment, en fait, mon expérience de l'image va me mettre dans l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, avons-nous, c'est la question de l'exposition de mon point de vue, c'est avons-nous encore une expérience de l'image à faire ? Parce que cette expérience de l'image aujourd'hui, c'est peut-être aussi notre recherche du réel. Dans quel monde vivons-nous ? Quand ce monde est d'une brutalité, surtout nous qui sommes quand même un peu peinards par rapport au lieu, lui, qu'il a d'abord ramené dans sa partie documentaire au porteur, et puis aujourd'hui, qui sont toujours ces lieux de grandes, de drame absolu, mais qu'il nous donne. Et je suis assez d'accord avec ce mot de repos. J'irais même jusqu'à dire une déposition. Vous savez, on dépose un corps. Et effectivement, le taliban de l'entrée, c'est une grande claque parce qu'il est comme endormi presque dans un creux, une tranchée, mais finalement, il y a une entaille, quand on se rapproche, une entaille au cou, et qui vous dit, bon, ben là, l'exposition commence. Ce que je vois, c'est des images hantées par la mort. Que ce soit des nuages d'explosion au loin, que ce soit des groupes à Jénine, où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais dans un environnement,
On ne vient pas alerter les gens. On leur demande de regarder quelque chose. Et donc, il y a une hantise. Parce qu'en fait, la question, c'est pas que la tête et le corps, comme je disais tout à l'heure. C'est des cartels où il y a une grande précision du cartel, mais pas avec des discours qui vous saoulent à longueur de temps. Là, ils sont factuels. Qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs vues, il n'y a pas des vues, etc. Donc c'est assez formidable. Et puis ensuite, c'est la gravité de ce travail. La gravité de ce travail, c'est qu'en fait, son assise et son sérieux, c'est la mort. C'est une exposition qui est hantée par la mort. Et qui va ensuite jouer dans le labyrinthe de la représentation. Quand on arrive au premier étage, où on a une sorte de labyrinthe, avec il fait des photographies de presse. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est tout ce que nous voyons du monde, il y a une lacune entre les images, il y a du vide. Et je crois que composer une image se fait avec aussi cette absence. Et cette absence, moi je la retrouve quand il fait de la mise en scène, notamment une de ses premières images que j'aime beaucoup, c'est Father and Daughter, là, le père et le fils. Il a vu cette jeune enfant apporter à son père une timbale alors qu'il vient de la mine de charbon. Et puis il est revenu mettre en scène ce qu'il avait vu. Donc il y a un qu'il recompose, eh bien, quand on voit cette image, il y a une tension d'une absence dans cette image qui rejoue quelque chose tout le temps qui hante ces images chez Luc Delahaye.
Donc tout n'est pas. Il n'y a pas de confusion entre son travail de reporter où il allait sur ces terrains-là et justement, par exemple, Wall Street où il a recréé quasiment deux personnes qui sont en train de se battre, quasiment. Voilà, ça ne crée pas une confusion sur l'information contenue dans l'image.
On n'a pas les images du photoreportage. Hein,
non, je sais bien, mais quand on pense à ce qu'il a fait avant, et il revient sur ces terrains, et là, les photos sont manipulées. Voilà. Est-ce que ça...
Il dit quand même que pour lui, c'est la même chose. Voilà. Il s'est déplacé, puisqu'il déclare à un moment donné qu'il devient artiste, mais en même temps, c'est pour lui le même rapport au réel qu'il va recomposer, et c'est justement ce qui fait que c'est très intéressant, ce travail-là. Parce qu'il repose autrement la question de l'authenticité de l'image et le rapport entre le réel et le mime, puisqu'effectivement certains tableaux photographiques relèvent peut-être presque du mime, tellement les personnages justement représentés. Mais donc cette question, cette très ancienne interrogation sur la reproductibilité des images et leur authenticité, finalement, il montre qu'en recomposant les images, on est encore plus près du réel. Mmh. Mais aussi, et c'est là où c'est intéressant, c'est que en étant au plus près du réel, on est aussi accompagné par tout un ensemble d'images qui proviennent de l'histoire et de l'histoire de l'art. Parce que ces tableaux photographiques renvoient aussi à des tableaux qui sont des tableaux picturaux. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui renvoient à l'image et au sens d'Abia Warburg, à la survivance des images de la
peinture. Pour répondre rapidement à votre question, allez, Marie, c'est une manière de dire, je fais de la photographie sur un événement, c'est reportage, et quand je travaille avec des images, pour faire de l'image, l'image devient un événement. Événement en soi. C'est chercher l'événement dans l'image. Et être au monde, c'est aussi et surtout aujourd'hui, être dans un régime de représentation. Je pense que c'est le cœur sur lequel il faut travailler. D'ailleurs, il faudrait faire une thèse à partir de cette exposition, si je puis me permettre.
Luc Delahaye, Le bruit du monde, c'est jusqu'au 4 janvier prochain au Jeu de Paume, avec comme commissaire d'exposition Quentin Bajac, et un catalogue évidemment, en coédition Jeu de Paume, Photo Élysée, Steidl. C'est à prix de 55 euros, dites donc. Oui, Sally Bonne, Corinne Rondeau, merci beaucoup. Allez voir l'exposition en fait.
Merci,
voilà. Et vous qui nous écoutez, bien maintenant, c'est à vous de vous faire une idée.